deux mercredis par mois à 17h30 sur 91.2. Retrouvez les ateliers des Valouna, l'émission qui écrit à vos oreilles. Lecture de textes de toutes sortes écrits en atelier.
Des formats courts, toujours.
Des nouvelles.
Poétiques, sûrement.
Théâtrales, peut-être.
Inclassables, parfois.
Écrit libre.
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 Durant cette émission, nous allons explorer les micro-nouvelles, genre très pratiqué en Chine. L'un des charmes de la micro-nouvelle est bien sûr sa brièveté. La micro-nouvelle a du rythme. Autre atout, elle doit, dans un temps très réduit, non seulement raconter une histoire, mais glisser dans cette histoire une petite ou grande critique sociale, un point de vue sur l'actualité. Nous allons voyager en Chine.
Ziyu et Monsieur Liu. Tous les dirigeants du parti sont mobilisés pour la sortie de Ziyu, la première voiture sans conducteur chinoise développée en secret par l'entreprise d'État Weilai. À la surprise du monde entier, les Chinois ont doublé la firme américaine Tesla, mais pour l'instant, le carnet de commandes est vide. On doute encore de Ziyu. Monsieur Liu, qui a opéré depuis les années 80 la sociétisation de plusieurs grandes entreprises d'État, est à la tête de Weilai. Nommé à ce poste par le parti, son sens des affaires et sa loyauté envers le régime l'ont épargné des purges anticorruption que mène le comité permanent par voie de presse ces dernières années. Aujourd'hui, la seconde usine de production des Ziyu va être inaugurée à Datong. Le ministre de l'Information en personne a orchestré sa couverture médiatique et décidé que M. Liu se rendrait sur le site à 350 km de Pékin en Ziyu, sous l'œil des caméras. M. Liu se prête au jeu. Secrètement ravi à l'idée de 4 heures complètes de solitude, il n'a pas eu quelques heures à lui depuis des années. L'ingénieur a programmé trajet, vitesse, géolocalisation et température du véhicule, il n'y a pas à s'inquiéter. À 4 heures du matin, quand il s'installe sur le siège arrière de la voiture, Ziyu le salue. Monsieur Liu, aveuglé par les flashs du caméraman embarqué sur une moto, sourit à la caméra, puis se plonge dans la lecture de son discours. 50 km plus tard, la moto les quitte et M. Liu, soulagé, cale sa nuque sur l'appui-tête. Enfin seul. Dans la nuit noire, l'asphalte rutilante de l'autoroute brille dans les feux de la voiture. Un grand silence s'installe. Ziyu, tout électrique, est un vrai chat. Une sortie indique Badaling et Liu pense à sa mère qui l'emmenait parfois visiter le célèbre site de la Grande Muraille. Sa mère morte appartient au passé, comme ce panneau de Badaling mis à bonne distance par Ziyu, qui roule à 120 km/h. Dans l'habitacle, sa négligence à l'égard de sa mère lève une tristesse, la rougeur sur son visage se fond dans la nuit. Surtout, la température de la voiture est mal réglée, M. Liu a trop chaud. Se penchant sur le boîtier central de Ziyu, il cherche la climatisation, mais perdu, il renonce. Il ne voudrait pas faire de bêtises et arriver en retard devant les médias et tous les cadres du parti. Pour prévenir la transpiration, il enlève sa veste. Cela fait, il regarde sa montre, 2 heures encore avant d'arriver à Datong. Guettant le prochain panneau, une colère subite le prend. Il est comme un aveugle perdu au musée, cette nuit est beaucoup trop obscure et l'empêche de distinguer les paysages. Ziyu est décidément très silencieuse, et seule la respiration de M. Liu est audible dans l'habitacle. S'entendre ainsi respirer le gêne. Il croise les bras, essaye de réduire le volume de son souffle, mais une surdité s'empare de lui. Ziyu, par contre, est à son affaire et avale les kilomètres. Se fiant à son ordinateur de bord, elle roule vers l'assise définitive de leur leadership dans le domaine technologique. Sa mise sur le marché coïncide avec la fin de carrière de M. Liu, très bientôt promis à une vie tout à fait inconnue de lui, puisque dans quelques mois, il sera à la retraite, sans aucun petit enfant à promener. Trop occupé par ses affaires, M. Liu a délaissé ce pan de sa vie, à peine a-t-il pris le temps de porter le deuil de sa mère. Il est vrai qu'il a eu tellement peur ces dernières années de finir, à l'instar de ses confrères, en première page des journaux, plongé dans la honte publique. Il se souvient de sa mère. Quand elle était montée en voiture pour la première fois, muette de panique, elle s'était accrochée à son bras. Lui, empêché dans sa conduite, l'avait violemment repoussée. Tout à sa solitude, sa mère avait fermé les yeux et gâché le plaisir de Monsieur Liu. La voiture arrêtée, honteuse, elle n'avait eu de cesse de s'excuser. Il voudrait empoigner le volant et accélérer à la place de Ziyu. Cette inactivité ne lui vaut rien, d'autant qu'un filet d'air glacé tombe maintenant sur ses jambes. Un échangeur annonce leur entrée sur la toute nouvelle autoroute connectée. C'est le seul axe au monde dont le revêtement est en panneaux photovoltaïques. Équipé de détecteurs, ses lampadaires s'allument au passage des voitures. Monsieur Liu se concentre sur ses innovations, mais trop congelé, il ne peut se réjouir de cette voie conçue pour Ziyu et ses pairs. L'effet stroboscopique des lampadaires lui donne des palpitations. Il s'imagine couché dans un lit d'hôpital. Quant à 7 heures, le jour se lève enfin, le soleil est blanchâtre. Monsieur Liu, yeux clos, en proie à la nausée, s'allonge pour se recroqueviller sur la banquette. Ziyu est glacial, Monsieur Liu perd pied. Les dernières images du visage émacié de sa mère, visitées trop rapidement à l'hôpital, l'assaillent. Pour les chasser, il tente de se ressaisir et se redresse pour regarder par la fenêtre. Au loin, dans le pare-brise, il distingue une silhouette en tenue orange qui se tient sur le bas-côté. Quand Ziyu arrive à sa hauteur, un très vieil homme balaye le bord de la route et d'un air épuisé les regarde passer. On l'a relégué sur cette route high-tech pour sa dernière ligne droite, en vrai corps étranger. C'est à cet instant que Monsieur Liu perd conscience. Le présentateur de CCTV, la première chaîne chinoise, ouvre le JT sur cette information. Ziyu, la voiture du futur, sauve son créateur. Le président de Weilai devait se rendre avec Ziyu, la première voiture autonome au monde, à l'inauguration d'une usine de production, quand notre équipe de télévision, partie à sa rencontre, l'a trouvée à bord inanimée. Prévenue par nos équipes, les ingénieurs ont piloté le véhicule à distance jusqu'au plus proche hôpital. Pris immédiatement en charge, la vie de Monsieur Liu a été sauve, à quelques minutes près. Mais on imagine le pire si la crise cardiaque avait saisi le camarade Liu à 120 km au volant d'une voiture classique. Pendant 24 heures, la presse fait ses choux gras de cette information et le carnet de commandes des Ziyu explose.
Une histoire de marée et de marché, d'hommes et de chauves-souris, de hasard ou de destin. Marée humaine, texte de Marie-Hélène Grimaud, lu par Marie-Jeanne. C'est la fin du marché. Une rigole acide de jus de fruits écrasés s'écoule sous les pieds. Par petites vagues, elle vient souiller cette première ruelle. En une seconde, une mare de sang se vide et s'étend sous les étals de boucher. Une eau de boudin répugnante charcute les narines. Dans une troisième allée, un petit marécage d'eau salée recouvre les tongs des marchands de gros fruits de mer. Ceux-ci ignorent les glacières et pataugent dans des marées boueuses. À l'entrée du marché, telle une enseigne, un Mongol très pâle, appelé Bouille de Suif, regarde ses courants souillés se rencontrer. Il hoquette, écœuré par cette pollution envahissante. Mais debout, appuyé sur un montant de la halle, l'homme oublie vite ses nausées, hypnotisé par l'estuaire que forment ses eaux sales. Il est là, lui aussi, dans ce caniveau. Il n'y a pas si longtemps, il était à l'intérieur du marché, là où fourmillent la vie, le commerce et la gourmandise. Il aidait Monsieur Yang à écorcher les poulets et les canards, jusqu'au moment où un coup de folie l'a détourné de sa tâche. Témoigne de ce geste idiot, mais en soi bénin, le crochet en S auquel reste suspendue une aile de chauve-souris. D'une main vagabonde, il a dérobé cette pièce inattendue. Allez savoir pourquoi.
une idée sortie d'une fièvre gourmande, d'un nuage de vapeur, d'une inspiration culinaire, une envie d'accompagner des châtaignes d'eau ou des champignons noirs dans une assiette planante. Mais son geste a précipité son chaos. Renvoyé, il erre désormais dans les allées des fripes et des chiffons made in China, loin de l'alimentaire dont il se distance pour affaiblir ses appétits. Il attend le départ des acheteurs pour revenir vers les odeurs chatouilleuses, pour ramasser les miettes. Pour l'instant, c'est encore la cohue. Acheter, 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 se goinfrer, la peur de manquer. Vendre, 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 s'enrichir, faire du chiffre, entrer en bourse. Ah, ce marché chinois, il dirige le monde et se moque du monde. Bouille de suif est atterré de voir cette marée humaine prête à s'étouffer de superflu. N'a-t-il pas, lui aussi, à régurgiter son obsession alimentaire? N'est-il pas devenu obèse avec ses bajoux de graisse? Finalement, il renonce à se gaver de détritus. Il rejoint Lot, son ami, ce grand échalas Lot, pour jouer au mahjong. Il avance ses pions, enfin ses arpions, vers le parc, le tapis vert où se joue à la roulette quelquefois la vie, quelquefois la bonne fortune. Il est beau ce parc en ce mois de septembre. Le cours de la bourse s'écroule à Manhattan. Le marché de Chinatown serait-il visé?
FM 91.2, les ateliers d'Eva Luna.
Autre chauve-souris, autre destin.
Yang et Yin, texte de Bernard Conseil. Le plateau du Yunnan est une zone subtropicale au sud-ouest de la Chine. Yang et Yin, deux copains inséparables, rentrent de l'école. « Comment ça? Tu n'as rien mangé depuis ce matin ?»« Non, c'est la cata, la ferme. Plus personne ne s'occupe de moi. Les cochons se mettent à tomber comme des mouches subitement frappées d'une maladie inconnue. Pourtant, ils vivent en plein air, sous les arbres fruitiers. Certes, ils sont un peu tassés les uns sur les autres. Écoute. » Ma mère m'a donné 20 yuan pour acheter un bout de papier. Ça attendra, je propose de t'offrir à manger avec cet argent. T'es un super copain, j'espère que ça va pas te faire gronder en rentrant. Quant à moi, je ne sais pas encore s'il y aura ce soir quelqu'un pour me faire à manger. Ce matin, un ouvrier agricole est tombé très malade et maman a dû le remplacer auprès des animaux. T'inquiète pas. J'expliquerai à ma mère, je lui redemanderai encore 20 yuan et je retournerai acheter son bout de papier. Une fois sortis de l'échoppe, avec des boulettes de riz et quelques haricots rouges, les deux copains reprennent leurs échanges. Tu ne trouves pas qu'il y a beaucoup plus de chauves-souris le soir au moment du crépuscule? Elles sont même assez grosses. Oui, c'est bizarre. Mais oui, c'est depuis qu'ils ont rasé une partie de la forêt pour des plantations d'huile de palme. J'ai l'impression qu'elles ont trouvé refuge dans les arbres fruitiers au-dessus de nos ports. Mais alors, elles grignotent vos fruits? Il vous en reste? C'est surtout les cochons qui croquent ceux qu'elles font chuter. En plus, la plupart de leurs crottes tombent à terre, là où ils les mangent. Ça me fait un peu peur, toutes ces chauves-souris. Rentrer à la maison, Yang s'apprête à expliquer à sa mère qu'il a encore besoin de monnaie, mais elle ne l'écoute pas, elle a l'air terrifiée. Les abattoirs viennent de me téléphoner comme quelques-uns de ses collègues qui travaillent à la chaîne des ports. Ton papa a été conduit aux urgences. Son état est très inquiétant. Moi, je prends le bus pour l'hôpital, reste à la maison et occupe-toi de ta petite sœur. Dans la nuit, le père de Yang meurt d'une encéphalite foudroyante. Les médecins sont incapables d'en déterminer l'origine. C'est une catastrophe pour sa famille. Son salaire en était la seule source de revenus. Deux jours plus tard, alors que ses proches sont réunis pour la veillée funèbre autour du corps du père de Yang, la télévision régionale annonce les résultats du loto local. Le visage de la mère de Yang s'illumine au fur et à mesure que les chiffres gagnants du loto s'affichent. Super fantastique, on a tous les bons numéros, on va pouvoir sortir la tête de l'eau. Au fait, Yang, le ticket du loto que je t'avais demandé d'acheter avec les 20 yuan, tu l'as rangé où ? Lecture, Michel Frappard.
Chine toujours, Chine impériale, Chine impitoyable aux allures paisibles. Dans cette histoire, on ne laisse rien au hasard.
Nouvelle de l'Empire du Milieu. Dans ce village reculé du sud de la Chine, le vieux Xian sirote un thé au jasmin sur le devant de sa maison de bois. Miyue, son épouse, s'avance vers lui, tâtonnante. Ses yeux ne perçoivent que les ombres que projette la lanterne accrochée sur le chambranle de la porte. « Femme, réjouis-toi et redresse-toi, notre fils arrive demain. Porteur, je suis sûr, de bonnes nouvelles. » »« Je ne partage pas ta joie. Il va nous présenter sa fiancée, une fille de la ville qui ne connaît rien aux travaux des champs. Cela ne présage rien de bon. Hong Kong est un lieu de perdition qui a semé la discorde et la révolte dans le cœur des jeunes. » Cheng est différent. Il respecte notre culture et nos traditions. C'est un homme droit que la ville ne saurait pervertir. Oui, mais cette Mei ne consentira pas à venir vivre ici à s'occuper de nous quand le poids des ans pèsera sur nos épaules. Avec une fille d'ici, notre vieillesse était assurée. Et puis, elle a fait de grandes études et de ça, j'ai peur. Cheng est intelligent et saura lui faire aimer nos collines, nos rivières, et nous vivrons ensemble dans la sérénité. Et si elle pose des questions sur notre vie d'avant ? Ne crains pas, le présent a effacé le passé, allons dormir. Tôt le lendemain, Cheng arrive avec Mei. Ils sont vêtus à la mode occidentale. Les retrouvailles sont joyeuses, mais ne durent pas. Mei s'exaspère de l'absence totale de réseau. Dans quelques jours, ils migreront en Angleterre. Xian et Miyue sont abasourdis, envolés d'un trait leur rêve de vieillesse heureuse. Cheng, que dis-tu ? Pardonne-moi, père, mais Mei a une proposition de poste au Guardian comme reporter. Elle couvrira les événements de Hong Kong, ce qui nous amènera à faire de fréquents allers-retours. Et toi, dans tout ça ? J'espère être embauché comme pigiste, ce qui me laissera du temps pour suivre Mei dans ses déplacements et vous revoir. Et tu penses que les autorités te laisseront partir ? Crois-tu que le parti restera sans mot dire ? Tu cours de graves dangers, et tu pourrais nous attirer à ta mère et moi de sérieux ennuis. Serais-tu devenu un terroriste ? Mais père, il n'y a nul terrorisme dans ce qui se passe à Hong Kong. Il s'agit de revendications d'étudiants pour la liberté et la démocratie. Et en face, la répression est féroce. Ce que tu es, ce que tu as, c'est à nos grands hommes que tu le dois. Vois comme notre pays est puissant, l'ordre et la sécurité règnent, l'Occident nous envie, et tu voudrais tout remettre en question. Père, ne crois pas tout ce que tu lis dans les journaux. La presse et tous les médias sont sous contrôle. Mei pourrait te raconter ce qui s'est réellement passé en 1989 à Tiananmen. Aucun livre et moins encore d'archives n'en font état. Mais père, que t'arrive-t-il? Tu es pâle soudain, et mère aussi. Ce n'est rien, un léger malaise. Je parle, et je ne t'ai pas demandé combien de temps vous nous honorerez de votre présence. Une semaine, je dois faire quelques démarches administratives auprès du secrétaire du comité pour finaliser mon départ pour l'Angleterre. Je peux m'en charger. Ainsi, vous pourrez vous rendre aux funérailles du vieux maître Liang à 2 journées de marche d'ici. Ta mère et moi ne sommes plus assez vaillants pour ce genre de périple. Les paysages sont de toute beauté, je suis sûr que May les appréciera. Bien, père, n'y a-t-il pas moyen de prendre un taxi? Non, tu le sais. Je vais voir avec le voisin pour qu'il vous emmène à dos de mule jusqu'au pont de la rivière des Perles. Et là, vous pourrez prendre un autocar. Ne vous chargez pas inutilement. Laissez ici vos papiers. Ta mère va vous préparer les habits traditionnels pour la cérémonie et des bâtons d'encens et du riz pour le défunt. Au petit matin du 2e jour, Cheng et May se mettent en route avec le voisin. Je t'avais dit que cette fille me faisait peur et j'avais raison. Elle sait beaucoup de choses sur les événements de Tiananmen et notre passé risque de ressurgir. Cheng est un bon fils, mais il a hérité de la fibre révolutionnaire de sa mère et s'il apprend la vérité sur ses origines, il nous haïra. Xian, tu n'as fait que ton devoir de gardien. Quand cette fille a couché à la prison, tu as arraché Cheng des griffes du mal. Sans nous, que serait-il devenu? Et puis, ça n'a pas été facile de s'exiler à des milliers de kilomètres de Pékin pour reconstruire notre vie. Comme tu es songeur brusquement. Chinatown, Guette, Londres, 2 semaines plus tard. Le vieux Xian sirote un thé au jasmin en compagnie de Miyue à la terrasse d'une pagode restaurant. L'air est doux. La brise agite délicatement les lampions accrochés ça et là dans les rues. Xian, que serions-nous devenus si Cheng et May ne s'étaient pas perdus à jamais? Comment savoir? Le vieux sage ne dit-il pas? L'homme jeune marche plus vite que l'ancien, mais l'ancien connaît la route.
Après les micro-nouvelles chinoises, quelques minutes de romances européennes. L'Europe est dans le quartier du Breil, à Nantes, avec la compagnie Mouradi, en juillet, en août, en septembre. Détail des romances européennes sur le site de la compagnie Mouradi, Moradi.
Les Européens, les Z-E-U-R-O-P-E-E-N-S, les Européens. Qui? Les Européens, en effet, sont rares. Ils sont très peu à réclamer leur paternité avec Zeus. Nous sommes dans l'ère de l'Immaculée Conception. Pourquoi cet oubli? Par omission. Est-ce être trop prétentieux? Le père est-il ingérable? Vaut-il mieux l'oublier? Voici des questions qui n'ont pas de réponse, mais cependant nous indiquent bien une filiation difficile, inexprimée. C'est le refoulé. Comme quoi, le papa, une fois qu'il avait fait son affaire, son viol, pour le nommer, était incapable de tenir en place. Il a le feu au cul et il n'appartient pas au même monde. C'est beau, ça. Il y a les petits humains et le dieu éclair qui foudroie tout sur son passage, ne respecte pas les frontières, offre des territoires qui ne lui appartiennent pas, change de nom à ce même territoire. Enfin bon, vous voyez le genre. Ça ressemble à la conquête de l'Amérique et de l'hébergement d'urgence. C'est un mélange des deux, puisque le bandit est tantôt un dieu, tantôt un salaud. Voici donc pourquoi on parle peu de papa dans la famille éclatée Europe. Alors les cousins, les frères et les faux frères ont gardé le côté colérique de papa, Dès qu'il pose un pied au sol, il réclame des droits de propriété et le ciel étoilé qui lui appartient. Ils attrapent une étoile comme on attrape un fruit dans l'arbre. Et évidemment, se chamaillent et s'écharpent pour tout.
Little me and little you kept doing all the things they do. They never really think it through like I can never think it true. Here I go again, the blame, the guilt, the pain, the hurt, the shame, the founding fathers of our plane. That's stuck in heavy clouds of rain.
Les Européens, les Yeuropeens, les Européens. Des miroirs pour se regarder, des miroirs pour éblouir les autres. Voulant briller de trop de feu, en cendre, elle finit. Mais elle aimait briller et renaître, ayant inoculé son modèle à tous, chacun voulant être elle. Ils lui donnèrent ainsi un nouveau courage. Avec quelques béquilles, la voici repartie à pérorer, comme avant, un peu plus bancale évidemment, mais quand même, la prétention suffit. Tout à chacun n'est pas fait dans la même matière, et chacun ne regarde pas dans la même direction. Certains, comme on l'a vu, volent d'un succès à l'autre. D'autres se regardent et se morfondent. Et d'autres regardent au fond d'eux-mêmes et tombent au fond d'eux-mêmes et continuent à regarder au fond. Tandis qu'il y a les esprits crieurs qui veulent que ça s'agite, que ça bise, que ça comme, que ça commence. Tandis que les esprits persifleurs veulent se moquer et respirer l'air du temps, que les précédents polluent. Alors ça gueule, oui c'est ça. Sa gueule, à se regarder en chien de faïence, fébrile et surtout fêlé, complètement fêlé, hagard, les yeux dans le vide, à sauter sur tout ce qui bouge, à louper souvent sa proie, à voir trouble, à croire voir, à vouloir croire.
Ah, little pretty baby, pretty little baby. Shadow babe, pretty little baby, baby, baby. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. Think of all the stories that we could have told.
Les ateliers d'Eva Luna, c'est fini pour cette saison. À bientôt. Cette émission a été réalisée par Sylvie Bauget, voix Marie-Jeanne, réalisation technique Hélène.